Ezoterisme experimental. Avec Richard Glenn. Bonjour, nous sommes maintenant au 10e rendez-vous d'ésotérisme expérimental à cette station CJLV 1570 AM, la radio Mieux-être. Première émission de l'année 2015. Radio Mieux-être qui signifie bien être mieux, mieux dans sa peau, sur le plan biologique, mieux psychologiquement, intellectuellement et mieux spirituellement aussi, moralement. Il y a à cette station des intervenants, des animateurs, des thématiques qui abordent tous les sujets justement du mieux-être. Être mieux soi-même, ça débute évidemment par la maxime dans l'ésotérisme du « connais-toi toi-même » et ensuite tu connaîtras l'univers et les dieux. À l'école, on nous enseigne surtout de bien connaître l'univers, les mathématiques, la géographie, l'histoire. Oui, mais c'est pas se connaître soi-même. Alors, on a l'occasion ici, à cette station, d'apprendre par différents chemins, par différents intervenants, à mieux se connaître et à appliquer des techniques qui peuvent nous aider à être mieux. Les orientaux disent que nous sommes, au cours de notre vie, un peu comme à voguer sur une rivière qui coule. On suit le courant de la vie. Et au cours de sa vie, dans le courant de sa vie, le courant d'eau, là, des fois c'est rapide, des fois c'est plus lent. Il faut surtout éviter les obstacles, les roches qu'on peut voir en surface. Il y a des roches qui sont juste à peine à la surface, en dessous de l'eau même. Et là, il y a des spécialistes qui sont capables, avec le temps, avec l'expérience, de la vie, d'observer et de lire, on appelle ça lire l'eau. Et lire sur l'eau, on est capable de voir les petits bourrelets, les bouillons d'eau, qui signifie que juste en dessous de la surface, il y a une roche, il y a un obstacle majeur. Quand au début, je vous disais apprendre à bien se connaître soi-même sur l'aspect biologique, dans l'analogie avec la rivière, c'est de bien connaître son embarcation. Si on est dans une chaloupe, ou un canot de sauvetage soufflé, ou un canot d'écorce. Oh mon Dieu, qu'on n'a pas le même véhicule. Alors notre côté biologique est différent à chacun, et on doit s'adapter et apprendre à gérer notre vie en connaissant bien les modes de gouvernail, les modes de propulsion, pour être capable de circuler sur la rivière sans frapper d'obstacles, sans couler. Une règle générale, il faut garder l'équilibre. On le sait, on dit tout le temps aux enfants, asseyez-vous, restez assis dans le fond de la chaloupe, restez assis dans le fond du canot, parce qu'évidemment, lorsqu'on commence à se lever, on risque de perdre plus facilement l'équilibre. Et qui dit perdre l'équilibre, dit basculer. Et là, bon, ben, on tombe à l'eau et on risque de se noyer. D'en mourir même. Il y a un autre très gros danger sur la rivière, ce sont les chutes. Hein? Quand tu arrives dans des rapides, puis que les rapides, si vous faites du canot là, sur des rivières rapides, les RR1, RR2, RR3, à un moment donné, là, ça commence à être très, très dangereux, très difficile. Il y a seulement les grands spécialistes ou avec certains types d'embarcations, des kayaks tout fermés, on est capable de passer à travers des rapides, même des petites chutes. Mais quand on parle de grosses chutes, c'est dommage. Si dans notre vie, on doit arriver un jour à une chute, il faut apprendre à sortir de la rivière, faire du portage pour passer à côté de l'obstacle infranchissable sur le courant normal de la vie. Alors, les analogies avec l'image de la rivière sont multiples. Il y a des gens qui ont un accident d'automobile qui vont être condamnés à être dans une chaise roulante tout le reste de leur vie. D'autres, ça peut être un problème neurologique, un problème neurologique cérébral ou une crise cardiaque. Ce sont tous les obstacles qui nous changent le cours normal ou simple de la vie. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre d'un spécialiste de la condition sociale, ce qui voudrait dire non pas de notre embarcation, de notre état biologique, psychologique ou spirituel, mais bien plutôt de bien connaître l'état de la rivière. Nous sommes nés à une époque, le 21e siècle. Pour nous, la plupart, c'est le 20e siècle. Le siècle dernier, on est né l'année, dans les années 1900. Nos jeunes en bas de 15 ans maintenant sont les seuls qui peuvent dire être nés au 21e siècle, au siècle nouveau, le siècle de l'électronique, de l'Internet, de la communication, de la connaissance à la portée de tous. Alors, on réalise que selon les époques, selon les endroits sur la Terre, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet partout sur la planète, bien que ça s'en vienne. Bien évidemment, c'est, on pourrait dire, l'état de la condition de la rivière de chacun. Les rivières ne sont pas toutes semblables partout sur la Terre. Alors, le spécialiste que je vous propose de rencontrer aujourd'hui, il agit surtout dans les milieux des Caraïbes, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Ben oui, alors, qui dit paradis, on pense toujours que c'est merveilleux. Il faut dire que là-bas, la température, la météo est pas mal plus clémente qu'ici au Québec, avec l'hiver qu'on connaît présentement. Alors oui, grâce à Jean de Flore, on l'appelle comme ça, alors que Jean est né au Québec, à Québec même, à Jean de Flore, Flore, la fleur de lys, la fleur du Québec, qui voyage et qui va vers le sud régulièrement pour être... Son pied à terre est maintenant en Floride, pour être rapidement rendu dans les Antilles, rencontrer des chefs d'État pour traiter du blanchiment d'argent. Sa spécialité, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent. Alors, grâce à lui, on va voir un peu quel état de la rivière nous avons actuellement, à notre époque. Sur les plans à la fois économiques, monétaire, mais aussi les plans militaires, politiques et même religieux. C'est une belle rencontre pour cette première émission de l'année 2015 pour essayer de voir pour le futur avec Jean de Flore.
Le blanchiment d'argent, ça peut tout s'arrêter, vous savez. Ils vont toujours trouver quelque chose encore de plus ingénieux, de plus sophistiqué pour passer à travers.
En fait, c'est le blanchiment d'argent, c'est pour nettoyer son argent qui est illicite. Hein? Alors, si tu légalises la drogue, puis tu mets en place toutes sortes de programmes sociaux pour faire en sorte que les gens ne restent pas accrochés, puis tout ça. À ce moment-là, tu viens de couper une source de revenus au crime organisé.
Oui.
Alors, si tu contrôles le trafic des armes, mm-hmm. puis tu mets en place la réglementation, à ce moment-là, tu viens de couper une source, encore une fois, de financement du crime.
Les trafiquants d'armes, on le sait.
Exactement. Ben oui. Si le trafic des êtres humains, ça fait partie du blanchiment d'argent, ça.
Pour la prostitution, pour le trafic d'organes.
Oui, exactement. Donc, si tu mets en place des procédures dans nos sociétés, des conventions dans nos sociétés pour légaliser la prostitution, à ce moment-là, il n'y aura plus d'argent, des marges de profit extrêmes, parce que c'est ça qui attire les criminels, sont les marges de profit extrêmes.
Rapides et extrêmes.
Exactement.
C'est ça. Et donc, invisible autant que possible.
Ah, bien sûr. Et la même chose pour le trafic d'organes. Donc, si on rend tout ça tabou, mm-hmm. donc on met tout ça en dessous de la table, on ne veut pas en parler, mais tout le monde le sait, tout le monde le fait, mais c'est tabou.
Bien, comme la corruption qu'il y avait au Québec, dans la construction, entre autres. Bien, je dis qu'il y avait parce que depuis la commission Charbonneau, le charbon, ça a servi à mettre le feu à bien des places. Et les gens se disent, ah, bien là, on a compris ce qui se passait, puis ça devenait assez évident. Est-ce que toi, tu es optimiste quant à l'avenir?
Bien, moi, je suis très optimiste.
Ah oui?
Oui. Oui. Puis c'est ce qui fait que je continue à tous les jours d'avancer. Parce qu'avec tout ce que je vois puis j'entends dans mon travail, si j'étais pessimiste, je me jetterais en bas du pont. Puis j'ai pas l'intention. Donc, si jamais ça arrive, ils vont m'a poussé. C'est pas que je vais sauter.
On en rit, mais remarque qu'il y a eu beaucoup de whistleblowers, qu'on appelle des alarmistes, là, qui informent la population de certains scandales, et qu'au bout de la ligne, on se rend compte qu'ils ont un accident d'automobile. Ah, étrange, mais c'est dommage. Crise cardiaque. Ah, étrange, mais c'est dommage. Ou il est tombé, tu sais, il y avait un inventeur là, d'une automobile moteur à l'eau. Et la veille du lancement de cette automobile-là, il est tombé de sa chambre d'hôtel du 17e étage en Thaïlande. Et puis, on a découvert que même la fenêtre n'était pas assez grande pour qu'il passe vraiment à travers. Fait qu'il est quand même tombé en bas, puis il est mort. C'est pas le moteur à l'air? Non, moteur à l'air ou à l'eau, mais en tout cas. Alors, toi, tu es un gars extrêmement vigilant, attentif à tout ce qui se passe dans le monde sur le plan monétaire, sur le plan scientifique.
La santé.
En santé maintenant, surtout depuis le décès de ton père, l'année 2014, au milieu de l'année, d'un cancer. Puis tu aurais trouvé des méthodes pour le soigner, mais ce qui m'a marqué dans ton dossier, quand tu nous en as parlé ici, c'était il refusait.
Oui.
Pourquoi ton père refusait des médecines parallèles qui sont de plus en plus acceptées, même aux États-Unis, ça s'en vient même au Québec maintenant?
Absolument. C'est une bonne question, ça, Richard. T'sais, moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a beaucoup de gens qui sont dans un paradigme.
Une manière de vivre, de penser
qui nous a été inculquée pendant une vie entière. Puis on arrive à une époque où, grâce à l'Internet, on en a parlé avec Hervé Lapointe il n'y a pas longtemps, tout change. On peut apprendre tout. Hein? Il expliquait quand il était dans son encyclopédie, quand il était enfant, il découvrait tout par ses propres recherches. De nos jours, l'Internet, tout est à notre portée. Tout est là.
Instantanément.
Donc, la seule chose que ça prend, c'est la volonté d'aller chercher l'information.
Et le discernement, car avec Internet, on a de tout, du meilleur au pire.
Bien sûr. Mais là où les choses changent, c'est qu'il y a ce qu'on voit et pourquoi l'optimisme. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, ce qu'on vit actuellement, ça ne tient pas debout. Alors, les gens commencent à creuser, à chercher et à se retrouver aussi par l'Internet.
Les réseaux sociaux, entre autres.
Oui. On voit ces jours-ci, là, à New York, là, il y a encore des manifestations dans les rues. Mm-hmm. Hein, on est en décembre 2014, où il y a eu un policier qui n'aura apparemment pas d'accusation portée contre lui, qui a clairement assassiné un homme sur la rue. On a tout le vidéo complet.
Il faut dire qu'ils ont un certain réseau d'immunité ou de raison d'immunité, les policiers, parce qu'ils sont dans une position où ils risquent la vie et la mort de quelqu'un. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Alors, on peut se dire une petite erreur, comme un chirurgien qui fait une erreur puis que la personne meurt sur la table. On n'entendra peut-être jamais parler, mais dans le fond, c'est une erreur parce qu'il était comme pas concentré, il était distrait, il y avait des problèmes financiers ou d'autres. Et ça a fait rater l'opération. Est-ce qu'on va aller le condamner? Le voisin qui livre les journaux à tous les matins, s'il tue quelqu'un, on va se demander, « Hey, wow, pas normal. » Mais quelqu'un qui est policier et qui fait un geste qui tue, c'est plus probable que ça arrive à lui qu'à l'autre.
C'est plus probable que ça arrive à lui, mais aussi on a un système de mesure dans notre société qui est le salaire. Le petit garçon qui passe les journaux, qui a très peu de chances de tuer quelqu'un en lançant le journal, comparé au policier qui a son arme à feu, il ne gagne pas le même salaire. Donc notre société reconnaît qu'il y a des gens qui ont des plus grandes responsabilités que d'autres, un chef d'entreprise qui a des milliers de familles qui en dépendent pour vivre, si l'entreprise fait faillite, puis toutes ces personnes-là perdent leur emploi, là, ça amène une chaîne de conséquences dans l'économie, puis ça, on en voit beaucoup dans les...
Donc, le traitement de la justice sociale, on peut dire, doit être aussi adapté aux responsabilités, à l'envergure de l'acte et du rôle de chacun dans la société.
Bien sûr.
Et c'est normal qu'on ne peut pas dire que tout le monde est sur un pied d'égalité.
Non, parce que nos actions n'ont pas les mêmes répercussions.
C'est ça. Et notre rôle dans la société n'est pas tous de la même valeur ou envergure. On se comprend un peu.
Sans rien enlever à personne. Puis là, on tombe un peu dans le nouvel ordre mondial, parce que c'est vers ça qu'on nous amène. Hein, avec la technocratie qui est en train de s'emparer de tout dans notre société. Ouais. On va avoir des voitures qui vont se conduire toutes seules bientôt. hein, avec Google. On va voir ça d'ici les deux prochaines années, deux, trois prochaines années sur le marché. Ils ont fait approuver déjà. Les lois dans la moitié des États américains ont été passées. Donc, les voitures qui se conduisent automatiquement, c'est maintenant légal dans la moitié des États américains.
Conduisent toutes seules. Ça, toutes c'est des vrais, ça, c'est des vrais automobiles.
Des automobiles.
Ils sont mobiles, oui. Et ils sont auto.
Ce sont des robots, ben comme oui. On vient de parler tout
exactement,
à l'heure.
Exactement, oui. Hein?
Et puis, et après ça, quoi, qu'est-ce que sera la prochaine étape? Les voitures volantes dont on nous promettait dans les années 60 qu'on aurait? Ben oui, mais pour avoir des autos volantes, il faut qu'elles se conduisent par elles-mêmes, parce qu'on n'est pas tous des pilotes professionnels.
Oui, là, c'est plus seulement du plat, c'est du 360 degrés dans les trois dimensions. Là.
Alors là, ça nous amène à la question du nouvel ordre mondial. Donc, qui aura le droit de conduire ces voitures-là? Qui aura le droit d'aller à certaines altitudes, à certaines vitesses?
Comme déjà aujourd'hui, un hélicoptère, tout le monde aurait le goût de rêver d'avoir son hélicoptère, mais c'est pas tout le monde... Puis, il y a les drones, hein, oui. Ça va ressembler à un drone, là, les Skycars là, qu'on aura dans le futur. Mais où on s'en va, c'est un peu la question que je te pose après la pause. On est de retour à Ésotérisme expérimental. Notre invité, Jean de Flore. Mais où on s'en va? Est-ce qu'on va, on va faire un clivage encore plus drastique dans la population? Vous autres, les esclaves qui faites marcher la machine à piastres parce que vous êtes obligés de survivre avec un petit salaire minable, et à cause de ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps d'être libre. Vous devez, à tous les matins, mettre les chaînes aux chevilles et à la queue leu-leu, comme autrefois les esclaves, attendre dans le trafic, sur les ponts, sur les routes. Et vous arrivez, vous travaillez au doigt et à l'œil, aux fouettes de l'entreprise. Quand vous sortez le soir, mettez vos chaînes, allez encore à la queue leu-leu, dans le trafic. Rendez chez vous, vous êtes fatigué, vous allez vous coucher. Vous regardez des émissions enivrantes qui vous apportent à peu près aucun réveil de conscience, et au bout de la ligne, votre vie va se passer comme ça, à fournir à la sueur de votre front, ce qu'on nous avait dit en sortant du paradis terrestre. Moi, je trouve pas ça bien agréable comme histoire, mais ça ressemble à ça, ce qui s'en vient de plus en plus, et il y aura une couche de gens privilégiés, une couche de la société qui seront des élus, d'une certaine façon.
Mais tu en as parlé dernièrement à ton émission de radio, et aux vidéos Randia, les élus.
Oui.
Et qui sont les élus? Ben, c'est ceux qui se présentent aux élections. C'est
une des premières. Et qui sont
présentables. Bien sûr, mais des gens prennent les moyens pour être présentables. Comme Hervé nous a dit avec M. Duplessis,
ouais.
Il présentait une image qu'il faisait élire, mais en arrière-plan, il y avait toute une autre histoire.
Une autre réalité. Une autre réalité. C'est ça. Alors, tu es quand même optimiste devant ce qu'on dit là. Dans un futur, ça semble être.
Ben,
un nouvel ordre mondial de plus en plus contraignant, astreignant, c'est pas hypnotisant
pour,
aussi.
Pour ceux qui choisissent de rester dans le système, oui. Mais d'un autre côté, le système, bien qu'il s'instaure, on le voit très bien, toutes les semaines, il y a des choses qui s'ajoutent de plus en plus. Mais il y a aussi une plus grande conscience. Et pour ceux qui font l'effort, une plus grande liberté aussi.
On peut-tu vraiment sortir du système?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui.
Tu vas pas loin. Permis de conduire, tu l'as plus. T'as plus d'auto. Permis de circuler sur les routes. Ça te prend un salaire avec l'argent que tout le monde accepte pour avoir de l'essence dans ton automobile. Si tu veux te libérer avec une maison totalement autonome, entre autres, Hydro-Québec va venir te condamner à payer pareil une taxe d'Hydro-Québec parce que tout le monde dans la société a collaboré à l'installation des fils, des barrages, etc. Et tu peux pas.
Oui, parce que, Richard, toi, tu as décidé de prendre la voie conformiste de dire, bon, ben je vais rester au Québec dans cet environnement-là. Qui te dit qu'il n'y a pas d'autres endroits dans le monde que les gens ne pensent pas autrement? Je vais donner un exemple.
En
Équateur, les aliments génétiquement modifiés sont interdits par la loi. Donc, si toi, Richard, ta santé est importante et ce que tu manges est important, ben, tu as le choix de rester au Québec, où on est soumis aux chemtrails. les avions passent. Puis
en Équateur, les avions de ligne ne passent pas. Là.
C'est un phénomène, les chemtrails, extrêmement nordique. Europe,
l'hémisphère nord.
Hémisphère nord.
Ouais, OK. Donc, Équateur, on est...
En hémisphère sud, ou Équateur, c'est l'Équateur. Hein, on sépare...
Oui, c'est ça.
Alors, c'est un exemple.
Cuba aussi, il n'y a pas d'OGM. Là.
Alors, Cuba, ça, c'est une autre histoire.
Oui, mais il n'y a pas d'OGM, qu'on nous dit.
Oui, mais Cuba, c'est toujours du mensonge. Alors, c'est un peu comme ici.
Une propagande, donc, c'est toujours de la tout propagande. Le temps. Ah, OK. Tu connais bien ces pays-là, Jean, parce que...
Je connais bien Cuba, entre autres, parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années.
Ben, c'est ça. Tu voyages beaucoup dans cette région-là du monde. Hein.
Oui. Oui.
Puis, tu as confiance, donc, réellement, il y a des pays où les gens peuvent sortir du paradigme capitaliste et du nouvel ordre mondial.
Oui.
On est à l'abri de ça.
À l'abri. Il n'y a rien qui est à l'abri. Mais si tu te crées une communauté de gens qui pensent comme toi... Tu peux faire changer les choses dans ta communauté. Si tu ne fais que te soumettre, puis d'être malheureux, puis de rester dans l'environnement actuel, ben là, c'est toi qui acceptes cette situation-là.
Faut-tu accepter d'être rétrograde, c'est-à-dire ne plus s'attendre à avoir l'Internet à tous les, avec accès illimité, ne pas avoir le Wi-Fi, ne pas avoir les tablettes, ne pas avoir la technologie, et reculer 50 ans en arrière, puis peut-être même 75 ans en arrière, avec les chevaux, un peu comme les Amish aux États-Unis, où ils disent « on retourne aux vraies valeurs de l'être humain qui est en priorité, vivre selon les règles de la nature et tout ce qui est électronique, médiatique, c'est vraiment du poison qui a empoisonné la vie de l'être humain. »
Ben, je reviens à ton exemple du couteau. Tu peux te servir du couteau pour cuisiner, puis tu peux tuer ton voisin.
Ben là, on dit que le Pourquoi? Wi-Fi, juste le Wi-Fi, c'est des ondes qui sont nocives à l'être humain.
Oui, mais là, tu viens d'avoir un conférencier, un expert dans lequel tu as confiance qui vient te dire le contraire.
Ah oui, puis il répète, là. Oui, oui, c'est vrai.
Puis c'est un expert.
Exact.
Bon, ben moi, un gars comme Hervé, je suis prêt à l'écouter pendant des heures pour qu'il me parle de ça, pour entendre l'autre, la contrepartie. Parce qu'on sait qu'il y a des longueurs d'ondes qui sont nuisibles. Et des longueurs d'onde qui sont positives.
Ou dans l'intensité, ou la durée aussi.
C'est ça.
Un cellulaire sur l'oreille gauche, c'est curieux, c'est là qu'apparaissent les tumeurs cancéreuses au cerveau.
Oui, parce qu'il y a certaines longueurs d'onde qui agissent comme des micro-ondes. Alors qu'il y a d'autres appareils en médecine alternative que tu vas t'appliquer, soit autour du cou, sur la tête, des certaines vibrations dont je vous ai parlé dans la conférence sur la santé, dont ma mère va faire une expérience, partie d'une expérience d'un groupe pilote, où c'est des longueurs d'onde qui passent au travers du crâne, qui s'en vont activer la pinéale pour la décalcifier.
Et lui, l'épargner de l'Alzheimer, entre autres. Oui. Exactement.
Et ça pourrait être le Parkinson auquel ça s'adresse, et d'autres maladies. Donc, faut être prudent. Pourquoi se départir de ces technologies-là qui pourraient nous permettre de décalcifier notre pinéale et de nous ouvrir sur autre chose qui est de l'ordre spirituel? Parce qu'on sait que la pinéale est fondamentale en ésotérisme.
Oui, et c'est une glande qui est au plein milieu du crâne de l'être humain, au plein centre.
Oui.
C'est là.
Et dont on connaît scientifiquement, aujourd'hui, encore peu de choses.
Mais qu'on retrouve en format plus grand, en sculpture, très souvent dans des endroits initiatiques comme au Vatican, en Égypte, dans les sculptures sumériennes, comme une cocotte de pin.
Oui.
De pin, l'arbre, le pin péienne. Et c'est curieux, mais ça ressemble à ça, une glande pinéale, mais tout petite. Encore. Et on se rend compte que ces gens-là, des traditions anciennes ésotériques, connaissaient certainement la raison d'être de cette glande-là, parce qu'on la revoit dans des sculptures, dans des bas-reliefs, etc.
Ouais. Et en relation avec ça, et la question des longueurs d'onde, comme on parlait tout à l'heure. Alors, récemment, j'ai écouté une conférence sur la médecine nouvelle, la plus récente, là, la plus d'avant-point, fine pointe. Et on parlait, entre autres, que dans les traitements du cancer, on intègre de plus en plus des acupuncteurs dans les hôpitaux aux États-Unis, là, comme les hôpitaux publics ici, les hôpitaux qui font du cancer, ça intègre des acupuncteurs. Et là, ils interviewaient un des acupuncteurs qui fait partie d'un groupe très avancé, très réputé aux États-Unis, avec beaucoup de succès. Ils ont demandé pourquoi l'acupuncture fait-il partie des groupes, des spécialités faisant partie du traitement au cancer, avec les oncologues et puis d'autres. Et puis, il a dit parce que le corps, fondamentalement, il est énergie. Là, je raccourcis ça, je synthétise sa présentation, là, mais il expliquait qu'un médecin traditionnel, quand vous allez le voir, il vous regarde la couleur de la peau, les yeux, les oreilles,
la langue.
Il regarde votre extérieur. Après ça, quand vous avez un bras cassé ou quelque chose, il vous envoie voir un radiologue qui va vous regarder avec une radiographie le bras. Il va regarder les os. Ça, c'est une autre longueur d'onde, hein? Parce qu'on parlait de longueur d'onde.
Ouais.
Après ça, ben là, si vous avez un organe vital qui vous donne de la douleur, par exemple des problèmes digestifs, alors là, ils vont prendre une résonance magnétique.
Oui.
Hein, ou un CAT scan.
Ou une biopsie.
La biopsie, c'est autre chose. Mais on parle de voir, là, comment on peut voir.
D'accord.
Bon. Bien sûr, ils peuvent vous ouvrir, mais ça, c'est plus...
L'analyse de sang, puis tout ça.
L'analyse de sang qui est microscopique.
Ouais.
On voit toutes des différentes épaisseurs dans le corps.
Je te vois.
Et là, on arrive avec l'acupuncture, et où c'est une médecine énergétique, c'est des flux électriques. Et qu'est-ce que l'acupuncteur disait? Il dit, moi, si j'avais une machine qui mesurait l'énergie, ça serait une machine à énergie quantique, à mesurer l'énergie quantique et l'énergie, la physique quantique.
Comment il la percevrait, cette machine quantique-là?
Alors, sur un appareil comme d'autres technologies qui permettraient de mesurer les flux d'énergie
à des
niveaux très, très, très microscopiques, comme on a les microscopes nucléaires.
Oui.
Alors, les mêmes principes. Donc, on voit qu'on s'en va même dans la santé.
Là, il faut faire une parenthèse, un microscope nucléaire qui envoie des radiations nucléaires tue la vie.
Oui.
C'est reconnu. Alors que le somatoscope, entre autres, permet de voir dans l'infiniment petit de manière optique, sans tuer les particules qui sont plus petites que les globules rouges, les globules blancs et tout.
Et ça, c'est de la connaissance qu'on a entendue sur tes émissions il y a 20 ou 30 ans, là, déjà.
Oui, qu'on ramène en surface là, depuis quelques semaines
parce que
l'émission qui est à la radio. Là.
Ouais. Et puis maintenant, c'est comme on dit en anglais, mainstream. Là. La science est en train de rattraper des choses que... à ésotérisme expérimental, nous présentais il y a 20 ou 30 ans.
Ben,
c'est assez incroyable, hein?
Oui. Mais nous, on est déjà encore en avance, là. Et c'est pour ça qu'avec Jean, j'aimerais entendre, pas de la prophétie de médium, mais de la
futurologie.
Voilà. On fait la suite après la pause. On est de retour à Ésotérisme expérimental. Notre invité, Jean de Flore. Bien évidemment, vous comprenez que c'est un nom de plume, mais c'est son vrai prénom, Jean. Et le nouveau monde, le monde à venir, parce qu'on le compare, ou en tout cas, il est en opposition avec le nouvel ordre mondial, qu'on appelle souvent le NOM. Prenez un téléphone cellulaire. Regardez les trois lettres NOM. Correspondent à quel chiffre? Ben oui, parce que ça fait MNO et c'est sur la touche numéro 6. Tout le monde comprend que nouvel ordre mondial, c'est 666. Mais l'argent semble être le nerf de la guerre, le nerf du futur. Et je te pose une question. Au début de l'année, on t'avait reçu en 2014, en janvier, pour nous parler de la finance, de l'argent. On le compare aussi à la circulation sanguine.
Oui.
Ben, tu es d'accord,
hein? Oui,
on était
absolument.
Avec ce bel exemple-là. Mais moi, je vais réduire ça à la plus simple expression, il faut le comparer à la circulation. Et dans les grandes villes surpopulées d'aujourd'hui, on a découvert qu'il est plus que temps qu'on redonne des artères, on les appelle comme ça, comme le sang, des artères de circulation aux piétons ou aux bicycles.
Les cellules...
Ben voilà, la cellule première, c'est l'être humain.
La cellule du tissu urbain, c'est l'être humain.
Et qui marche, qui peut marcher, qui peut se déplacer en bicyclette sans prendre beaucoup d'espace avec, je sais pas moi, une espèce de grosse bébite en métal qu'on appelle une auto, un camion, et aussi donner une grande, plus grande facilité à des services en commun, comme les trains de banlieue, les métros, les autobus, puis tout ça.
Les voitures qu'on partage maintenant, on met une carte, puis la porte se rouvre. Puis après, si on va la laisser trois coins de rue plus loin, puis quelqu'un d'autre peut la prendre, mettre la carte.
Alors, vois-tu le parallèle à faire avec la monnaie?
Oui.
Les banques contrôlaient tout dans l'argent. Et on se dit, ah, OK, la circulation automobile était toute soumise à l'automobile, au véhicule automobile. Et là, on commence à se dire, on pourrait avoir d'autres manières de circuler, d'autres manières de faire bouger l'argent que d'utiliser des banques. On commence à avoir même des banques par Internet, là.
Oui.
ING, là.
Entre autres,
là.
Oui, il y en a d'autres.
Et puis, on parlait de Bitcoin, qui est aussi un argent. Hey, y a-t-il de l'avenir dans l'avenir, dans le futur, pour quelque chose d'autre?
Comme on avait parlé au début de l'année, moi, je crois que l'argent, c'est fondamental pour changer notre façon de penser en tant qu'être humain. On voit que dans le système actuel, c'est chacun pour soi, puis on accumule. Alors, le contrepoids de ça, c'est oui, il faut garder des mécanismes d'échange entre régions, hein, entre villages, entre provinces, entre pays. Oui, il faut qu'on ait un mécanisme qui est une ou des devises. Mais au niveau local, il faut penser d'avoir se doter de nos propres moyens, d'avoir nos propres devises locales. Et donc, quand on parlait de monnaie fondante l'an dernier, c'est de ça qu'on parlait, d'avoir des régions qui pourraient être une ville, une communauté urbaine, une province, dépendamment de ce qu'on détermine comme communauté, ce qui est optimum, et de se servir de cette monnaie-là pour stimuler l'économie, pour faire en sorte que le focus ne soit pas sur empiler nos avoirs, mais plutôt de les faire grandir. Et après ça, ben notre monnaie, qui est régionale, locale, ben elle doit être transigeable avec des monnaies internationales qui servent aux échanges mondiaux. Hein? Parce que peut-être que nous, chez nous, on fabrique des voitures, mais dans une autre région du Canada ou des États-Unis, ils fabriquent des ordinateurs.
Ça crée une base solide financière qui appartient à un peuple.
C'est ça.
Et qui est appuyé sur des valeurs, des richesses naturelles. Et une des plus grosses richesses, c'est la population humaine.
Oui.
Ses compétences, parce qu'il est allé étudier à l'université, parce qu'il a développé des technologies qui est capable de manipuler parfaitement et tout ça.
Et tu crées des conditions qui font que les gens veulent venir chez vous. Donc, tu peux dire, chez nous, l'environnement, c'est important. Un environnement sain. Pas avoir de règles administratives trop folles, et puis faire en sorte qu'on attire les gens, parce que c'est beau chez nous, c'est agréable d'y vivre, puis là, ça crée une roue, hein? Puis là, de plus en plus de gens veulent venir s'établir ici, donc plus de savoir, plus d'entrepreneurship,
bon,
etc.
Sarkozy dit que s'il est élu président de la France, encore un nouveau mandat, ça s'en vient pour lui, là, il y a de grosses chances, il dit tous les Québécois pourront devenir, avec un passeport, une citoyenneté française.
Ah oui, moi je vous dis, allez-y tous. Allez-y tous. Moi je n'y vais pas, parce que c'est encore un autre truc de taxation, ça.
Explique donc.
Ben, à partir d'octobre 2017, plus d'une quarantaine de pays de membres de l'OCDE, l'Organisation de développement économique, se sont entendus pour faire des échanges automatiques sur les payeurs de taxes. Donc, ils vont prendre toute la base de données, puis entre les 40 pays, ils vont toutes les échanger. Le Canada va prendre toutes ces données sur les payeurs de taxes canadiens, puis il va les donner aux 40 autres pays qui sont membres de cet accord-là. Et donc là, si vous êtes canadien, payeur de taxes canadien, payeur de taxes français, vous vivez ici au Canada, vous allez payer vos taxes au Canada. Vous allez payer, je ne sais pas moi, 30-40%.
Comme on fait présentement.
C'est ça. Mais là, en France, ils sont taxés à 70, 80, 90%. Fait que là, vous allez être citoyen français, puis qui est payeur de taxes canadien. Fait que là, vous allez payer aux deux places. Puis même s'il y a des accords contre la double taxation...
Si on paye 30 ici, 70 là-bas, il ne reste plus rien.
Si vous payez 30 % ici... Si vous payez 30 % ici, puis ouais. Eux payent 70 %, donc ils vont prendre 70 % moins 30, 40 % vous devez envoyer votre chèque de 40 % à Paris.
Mais on a tous les services autant
socialisés
qu'on a au Québec?
C'est pas important, parce que tu es payeur de taxes d'un pays, tu es citoyen d'un pays ou tu es payeur de taxes.
Le blanchiment d'argent marche beaucoup à l'envers de ça, c'est-à-dire qu'on dit dans presque tous les pays la loi... Tu payes de l'impôt à un pays, à un endroit où ta compagnie, ton entreprise, ton égrégore est installée. C'était installé au Bahamas. Ta compagnie a été constituée au Bahamas. Et tu payes ton impôt au Bahamas. Eux autres, ils ont des taux d'imposition toujours le même, 500 $ par année. Que tu fasses 5 millions, c'est 500 $ par année. Et alors, tu n'as pas à payer d'impôt ailleurs.
C'est pas tout à fait comme ça.
Non,
là,
je l'ai caricaturé, mais c'est proche.
Je comprends où tu veux m'amener. Puis ce qui se passe, c'est que une entreprise, comme tu l'as si bien dit, c'est un égrégore. C'est une entité qui a une vie tout au long de sa durée légale. Du moment qu'elle est constituée jusqu'à temps qu'elle soit dissoute. Si cette entreprise-là opère pendant 200 ans, ben, elle a une vie de ces 200 ans. Alors là, si, par exemple, elle a été fondée aux États-Unis, comme Caterpillar, ou PepsiCo, là, ils s'en vont, décident d'aller s'établir dans une île des Caraïbes parce qu'ils offrent des meilleurs programmes.
Financiers et impôts.
Alors, ce qu'elle fait, cette entité-là, elle quitte sa juridiction américaine, elle s'en va dans une île. Et elle opère dans cette île-là.
Elle continue à vendre ses produits aux États-Unis, pareil.
Oui, parce qu'elle a des compagnies, des subsidiaries, des compagnies satellites. Alors là, ce qui se passe, c'est que PepsiCo, là, ou Caterpillar, aux États-Unis, ils vont payer des taxes sur leurs opérations américaines. Mais une compagnie comme Caterpillar fait beaucoup plus d'argent en Chine, ou en a fait depuis les 20 dernières années en Chine, qu'elle en a faisait aux États-Unis. Donc, pour elle... Elle payait la version chinoise Caterpillar payait ses impôts en Chine, mais quand la maison mère rapatriait ses profits, elle ne les rapatriait pas aux États-Unis, donc où elle avait été initialement fondée. Elle avait déménagé son domicile dans une île des Caraïbes. Alors, ses profits étaient ramenés dans cette île-là des Caraïbes.
Parce que quand c'était ramené aux États-Unis, il fallait qu'elle repaye un impôt américain.
Là, c'est ça, parce qu'il aurait fallu qu'elle repaye de l'impôt américain.
Ben là, il y a une forme d'injustice.
Parce que c'est ça, le système.
Ben, mais l'argent appartenait pas aux Américains, c'était chinois. Il fallait que ça
reste. Non, mais parce que l'entreprise est considérée payeur de taxes américains. Et c'est ça dans tous les pays. Si tu es...
Alors, je les comprends de se déménager, parce qu'ils se disent, ça ne vous appartient pas, c'est fait ailleurs.
Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur argent... puis ils décident qu'est-ce qu'ils font avec. Mettons que tu es membre du Fonds de solidarité du Québec, des travailleurs du Québec, puis eux investissent dans une compagnie. Ils font ça souvent, ils investissent dans des compagnies.
Des placements d'argent.
C'est un fonds, c'est quoi ce fonds-là? C'est un fonds de travailleurs que vous avez mis votre argent-là pour le faire fructifier, parce que c'est pour payer votre retraite.
C'est ça, et qui a été pris sur ton salaire à toutes les semaines, 50, 60, 80 $ par semaine pendant 20 ans. Ça fait beaucoup d'argent de placer quelque part.
Donc, tu veux-tu que cet argent-là soit double taxé, et même dans certains cas triple taxé, parce que quand elle revient dans tes poches, tu es encore taxé.
Ben oui.
Donc, si l'entreprise est le fonds de solidarité fait un placement dans une entreprise... cette entreprise-là, des opérations internationales, tu veux pas que les opérations internationales soient taxées dans le pays où ils opèrent, après ça, ils reviennent au Québec, sont taxés, après ça, toi, tu as tes dividendes comme petit vieux quand tu prends ta retraite, puis là, tu ramasses ton argent, puis toi, tu es encore taxé. Là, ça fait trois fois là, que
tu
es taxé.
Si
là.
Tu meurs entre-temps, ça devient un héritage. Les héritiers sont encore beaucoup plus taxés.
Oui.
Fait qu'il reste rien que des miettes. Finalement, tu as mis de l'argent de côté absolument pour rien. C'est comme l'écureuil qui ramasse des pinottes puis de tout ce que tu veux à l'automne. Il l'enterre, il tombe de la neige, il ne retrouve plus la trace.
Ou bien pire que ça, il y a un autre écureuil qui vient tout y voler.
Ben ça, on ne nommera pas l'autre écureuil, hein?
Ça ressemble à ça, ce qui se passe. Donc, il faut se méfier là, de ces offres-là. Alors, moi, je vous dis, allez-y. Ceux qui veulent être d'heureux Français, Donc là, il y a des changements importants là, qui s'en viennent avec... on a déjà parlé de FATCA, qui est une loi américaine qui vise à aller chercher tous les payeurs de taxes américains un peu partout à travers le monde. Et ça va affecter les Québécois qui passent plus de la moitié de l'année en Floride, qui ont des propriétés en Floride. Bon. Alors, ces gens-là, ils vont devenir des payeurs de taxes américains.
S'il reste plus que 6 mois et un jour en Floride.
Oui, c'est ça, entre autres. Et où, s'il y a d'autres règles, là, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Oui,
là.
C'est ça.
Si dans une période de 4 ans, il passe un certain nombre de jours aux États-Unis, tout ça. Et tout ça pour dire que s'il y a des choix, est-ce que tu choisis d'aller t'acheter une propriété aux États-Unis, où là tu t'es soumis à ces règles-là, ou tu vas dans un pays comme l'Équateur, où les taux d'intérêt, où les taux de taxation sont très, très faibles. Je pense que c'est 10% ou en tout cas très faibles. Mm-hmm. Donc, tu as des choix. Donc, je reviens à ma question. Où voudras-tu t'installer ou vivre? Voudras-tu ce nouvel ordre mondial?
Si je reprends l'expérience extraterrestre d'habiter sur une planète, j'irai jamais vivre au Québec parce que pendant 6 mois, tu as absolument besoin de te tenir au chaud. Et au Québec, on n'a pas d'autre choix que l'électricité, à peu près. Alors, j'irai dans des pays où... Si tu n'as pas d'argent pour te payer du chauffage, c'est pas grave, il fait chaud même la nuit, en Équateur, entre autres.
Mm-hmm.
Tu es en train d'ouvrir une agence de voyage pour l'Équateur.
Ah, oui. On va y aller avec. Hein.
Alors, on comprend que selon l'endroit où on est placé sur la Terre, à cause du climat, donc qui inclut aussi l'agriculture, donc la nourriture que tu prends.
Ou le climat social, climat politique.
Et ça aussi, donc. Il y a un choix à faire dans le futur, puis il faut s'en rendre compte maintenant. Tu connais bien l'Équateur?
C'est un pays que j'ai un œil dessus.
Oh oui, hein?
Oui, oui, définitivement.
Ben oui.
À cause de ces lois qu'ils ont passées pour interdire les aliments génétiquement modifiés.
L'ingérence américaine n'est pas rendue là?
Ben, il y a des tentatives partout. Mais encore là, il faut toujours être prudent parce que là, tu m'amènes sur un terrain qui pourrait être un autre entretien, celui de l'ingérence américaine. Est-ce vraiment l'ingérence américaine ou est-ce l'ingérence du nouvel ordre mondial qui se sert des États-Unis pour arriver à leur fin?
Oh, après la pause, on va mettre le doigt dessus. C'est quoi, c'est qui le nouvel ordre mondial? On est de retour à Ésotérisme expérimental. Notre invité, Jean de Flore. Qui est le nouvel ordre mondial? C'est-tu des personnes? C'est-tu des égrégores comme une compagnie, c'est-à-dire une personne fictive là, qui n'est pas réelle?
Moi, écoute, j'ai pas ma carte de membre, Richard, du nouvel ordre mondial. Mais je pense qu'il y a plusieurs groupes qui bataillent une position de leadership dans le monde. Des groupes financiers, des groupes politiques, des familles influentes qui
des
ont traversé...
religieux, on peut-tu dire?
Des groupes religieux qui sont affiliés à d'autres groupes. En fait, c'est entremêlé de gens qui ont différents intérêts.
Mm-hmm.
Et on assiste en ce moment à une bataille de groupes d'intérêts, de groupes d'élite. Élite financière, là, élite politique, élite médicale, élite sociale, que ce soit à travers la musique, le cinéma. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de symboles, des Illuminati dans la musique populaire américaine depuis 2 ans. Il y en a partout.
Est-ce qu'ils sont tous indépendants, ces groupes-là, ou ils sont tous interreliés?
Ils sont interreliés.
Oui. Hein?
Ouais. Ils sont interreliés.
Des fois, on entend parler des 13 grandes familles.
Entre autres. Mais d'une autre journée, on entend parler de l'élite d'Amérique du Sud qui veut s'allier à l'élite de Chine, qui veut s'allier à l'élite de Russie pour contrecarrer l'alliance anglo-américaine, arabo-israélienne. Alors, on voit qu'il y a différents groupes qui se bataillent cette position. Mais en bout de piste, ils ont tous la même intention, c'est de dominer et contrôler.
Oui.
Et pas contrôler l'argent, la finance, contrôler le futur.
Contrôler le futur.
Contrôler le futur.
Dans quel sens tu parles du futur de l'être humain?
De l'humanité, oui. Contrôler le futur.
Oui.
Et assurer leur dominance pour les siècles à venir.
Moi, je m'attendais à savoir qui est ou qu'est-ce qu'est le nouvel ordre mondial, puis on est encore dans le nuage, que c'est un gros nuage noir, sombre, qu'on a au-dessus de la tête, puis qui va nous pleuvoir tantôt, je sais pas quoi, là, mais...
Mais il y a des choses que, moi, je vais te dire, fondamentalement, je suis d'accord avec le nouvel ordre mondial. Moi, quand je prends l'autoroute, puis je vois les gens conduire en malade, puis venir me couper, puis manquer de faire un accident parce que tout le monde va trop vite, puis là... Je me dis, bon, ben là, mettre des systèmes électroniques dans les voitures qui vont contrôler la vitesse maximum de ces gens-là qui sont irresponsables. Moi, je suis bien pour ça.
Aux États-Unis, tu as les turnpikes. Tu rentres,
ben oui.
Tu as une étiquette.
Même plus. Maintenant, c'est des transponders et des petits appareils là, qu'on colle dans nos fenêtres, comme ceux qui ont des stationnements automatiques en ville, là, puis les portes rouges.
Ouais.
Bon, ou encore... C'est ta plaque d'immatriculation. Tu n'as plus besoin de papier, plus besoin de monnaie. Tu n'arrêtes plus, puis il t'envoie. Il y a deux prix. Une place, c'est si tu as le transponder, la petite étiquette, c'est 70 sous quand tu passes. Puis s'il te charge avec la plaque d'immatriculation, c'est 1,70 $.
Oh là, OK. Et tu arrives à bout de 80 km.
35 $.
Et là... On te débite de ton compte de
quand banque. Quand tu sors, tu prends la sortie de l'autoroute.
Et si tu as pris pas assez de temps pour faire tes 80 km, parce que tu es allé à 130 km à l'heure, pouf, tu as l'amende qui tombe en même
pas
temps.
Pas encore.
Mais ça va
pas encore, en mais ça va nous amener vers ça.
Ah, c'est ça le nouvel ordre mondial. Ça va être hyper organisé.
Tout va être contrôlé.
Et si on connaît les lois de tout, on peut être gagnant.
C'est ça.
On n'aura pas de trop.
Si tu joues le système,
oui.
Selon les règles, mais le problème, c'est que le système a tellement de règles complexes que tu es à peu près tout le temps en violation.
Mais là, tout le monde va être égal. Que tu sois premier ministre, tu vas te faire attraper si tu es allé trop vite. C'est ton chauffeur qui est allé trop vite, mais peu importe. Là, on réalise que tout va être sur un pied d'égalité à un moment donné. Là.
Ça dépendra de qui appliquera les règles. Si ce sont des machines qui l'appliquent de façon automatique, oui. Mais si ce sont des êtres humains qui, parce que tu es mon ami Richard, on va te donner une autre chance.
Ben, Stephen Hawking, que tu connais bien,
oui.
Est allé déclarer il y a quelques jours que le danger pour l'humanité le plus grand est la robotisation de nos sociétés.
Oui.
Des robots qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de... Tout est « by the book »,« by the programme ». Selon le programme qu'ils auront. Et ça veut. Un robot, il ne faut pas toujours penser que c'est avec des bras et une tête. Là. C'est de l'informatique, tout ça va être sous contrôle.
Ah, les frigidaires, les lave-vaisselle sont des robots en ce moment, tous ceux qui ont des puces
là,
connectées sur Android.
Alors, le nouvel ordre mondial, on pourrait presque dire que c'est les rois, c'est les robots, qui vont diriger tout, contrôler tout, organiser tout. Et l'être humain, il est juste quoi? Un esclave qui doit suer, recevoir de son front, il va être encore plus mal pris qu'au Moyen-Âge.
Si on accepte que de confier cette responsabilité-là au robot...
On s'en va vers ça. C'est plus efficace, ça n'a jamais mal à la tête, ça ne réclame pas des congés de maternité, ça peut travailler 24 heures par jour, ça n'a pas de syndicat, parce que quand ça ne marche plus, on enlève les morceaux brisés, on les répare, puis ça continue, ou sinon... C'est dépassé, obsolète. On les remplace par des plus modernes. C'est ça le monde de demain.
Pour ceux qui choisiront celui-là.
Est-ce qu'on aura le choix? Tu ne veux pas d'Hydro-Québec ici au Québec, de la manière qui gère le...
Alors, tu as le choix. Tu peux aller vivre dans le bois. Ou bien tu peux changer de pays. Toi, demain, Richard Glenn, tu es libre. Qu'est-ce qui te retient ici, là? C'est tes choix qui te retiennent ici. Ce sont tes choix qui te retiennent ici. Si tu fais le choix de dire que ta maison est importante, que ton fonds de retraite est important, que ta voiture est importante, que tes amis sont importants. Alors, si tu dis, moi, ma liberté est importante, puis je vais aller m'établir où j'ai de la liberté, que ce soit dans le nord du Québec, que ce soit dans le bois dans le Québec, ou que ce soit dans un autre pays, c'est toi qui fais... C'est toi qui fixes tes barrières, tes limites.
Et cherche l'endroit où on pourrait se réaliser en tant qu'être humain sans avoir besoin de l'étiquette de ingénieur, informaticien, médecin, avocat, être humain qui vit une belle vie agréable et qui sert à quelque chose au cours de toute sa vie. C'est ça l'intérêt. Et que ça ne serve pas juste à faire nourrir la machine qui est de plus en plus avide d'argent, puis de te déposséder, puis de te ruiner financièrement et dans ta santé et dans ta pensée aussi.
C'est ce que tu recherches, c'est une communauté où tu vas t'épanouir comme être humain, puis réaliser ta mission spirituelle ici sur Terre, ton évolution spirituelle. Ben, c'est sont des conditions favorables que tu recherches.
Oui, j'en connais. Les petites pattes croisées, les ahoum, ils flottent, puis ils sont dans un autre monde avec, des fois, souvent, ils en fument du bon. Puis ils ont plus de sentiment d'être esclaves. Ils ont le sentiment d'être proche de la nature, de Dieu, de la lumière. Et merci, bonjour.
Oui, mais on s'est incarné dans un corps de matière. Il faut assumer ça aussi. Là.
C'est juste un tiers. Matière.
Ah oui, mais c'est un tiers.
Il y a deux autres tiers. Il y a l'âme puis il y a l'esprit.
Ouais.
La matière, c'est un tiers.
Il faut que tu l'assumes, ce tiers-là.
Oui, mais les deux autres tiers ont...
On leur rôle à jouer.
Ben oui, mais quand on est dans la matière, on dirait qu'on ne peut pas servir deux ou trois maîtres à la fois. Restons dans la matière. Et c'est qui est le boss?
Non, mais ça, c'est notre culture, ça, occidentale, ça.
Défends-toi, là, j'aime
non,
ça.
Non, mais c'est notre culture occidentale qui fait qu'on choisit ça.
Oui, que ça.
On a choisi ça, là. On peut nous endoctriner, comme on l'a fait.
On est très endoctriné. Tu parlais tantôt de paradigme.
Mais oui, mais on peut changer le paradigme. On peut changer le paradigme.
Tu y crois?
Absolument. Moi, j'y travaille personnellement de changer mon paradigme. Je ne dis pas que j'ai réussi, loin de là,
mais j'y travaille. Partir d'ici, aller en OVNI sur une autre planète, il y a des gens qui disent « j'ai tellement hâte d'être amené ailleurs, j'en peux plus ici ». Et eux nous disent souvent, les contactés le savent, si on te change de monde parce qu'ici tu es inadapté, tu vas être inadapté
bien
sur
sûr.
L'autre monde.
Imagine.
Alors, au lieu d'aller en Argentine ou à l'Équateur, l'idée d'avoir un nouveau paradigme social, spirituel et tout, c'est de l'appliquer ici maintenant.
Où tu es, dans ta communauté.
Exactement. Pour nos gens qui nous écoutent, là, c'est vraiment pas facile à saisir toute la dynamique de tout ça. Et puis, sans être révolté contre le système, on est dedans, nous nourrit quand même, oui. Là. Puis nos enfants, si on en a, vont
et
grandir.
Et ils nous tolèrent. Et ils nous tolèrent. C'est ça qui est assez inimaginable.
Qu'on parle comme on parle, là, tu veux dire?
Oui. Et qu'on nous laisse faire notre démarche. Il n'y a personne qui est rentré ce soir dans la salle pour nous embarquer dans un camion, pour nous amener dans une chambre à gaz.
Parce qu'il y a d'autres pays où ça serait comme ça.
Ben oui.
Beaucoup d'autres pays sur la Terre. Merci, Jean de Flore.
Nous venons d'entendre un extrait de l'entretien que nous a accordé Jean de Flore pour le Club Créé, qui est réservé aux abonnés du Club Créé ou à ceux qui assistent aux conférences au début de chaque mois. La première fin de semaine de chaque mois à Québec, c'est le premier vendredi du mois à l'Université Laval au pavillon Vachon, local 3860. Et à Montréal, c'est le dimanche qui suit le premier vendredi du mois au cégep de Maisonneuve, au cinquième étage, au local B5501, deux étages au-dessus de la porte d'entrée principale du cégep de Maisonneuve, qui est au 3800 rue Sherbrooke-Est, métro P9, tout près du stade olympique. C'est de 1h à 5h le dimanche après-midi. Cette rencontre nous permet de découvrir qu'il y a autre chose que simplement le connais-toi toi-même. Il faut bien connaître notre environnement, n'est-ce pas? La rivière, comme je le disais au début de cette émission, ici, sur cette station CJLV 1570 AM, la radio Mieux-être, vous propose plusieurs intervenants, plusieurs thématiques en rapport avec l'être humain, pour qu'il soit bien, mieux même, sur le plan biologique, physique, l'embarcation dans laquelle on circule sur la rivière, en sachant bien manœuvrer, c'est le plan psychologique, intellectuel, et même le plan spirituel pour nous amener à l'objectif, l'idéal, que la rivière nous conduise au fleuve et le fleuve à l'océan, pour atteindre à de nouveaux horizons, peut-être des nouveaux paradis terrestres, pas fiscaux, là, des paradis spirituels aussi. En ce début d'année 2015, j'en profite en mon nom personnel ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'ésotérisme expérimental qui produit depuis 1976 cette émission, autrefois sur le câble, maintenant sur Internet et actuellement à la radio, d'avoir la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs et le paradis avant la fin de vos jours. Ici, je maintiens l'idée de la rivière, de la navigation, comme les marins se le souhaitent. Bon vent. À la semaine prochaine.